Il y a deux questions en cours là qui apparaissent à l'occasion de cette crise. D'une part, bien sûr, la question de la pédophilie et des droits humains et de la question de la justice. Et puis, la question de la chaîne de commandement. Au-delà de ça, il y a la situation de crise économique quand même extrêmement volatile au Maroc, hein, avec des déficits dans tous les domaines qui sont très importants. Et cette crise économique, elle commence à peser sur la population, hein, c'est pas seulement sur les chiffres publics. Et puis encore une fois, il y a cet agenda politique qui de toute manière doit se dénouer ou se déboucler, et d'une manière pour l'instant encore obscure. Alors certains appellent à des nouvelles élections, anticipées autrement dit. Bon, évidemment, tout ça impulsé par ce qui se passe dans d'autres pays de la région. Ça n'est pas encore une situation qu'on peut qualifier du tout de révolutionnaire, mais en tout cas une situation d'impatience et de volatilité liée à différents éléments.
Est-ce que les islamistes à la tête du gouvernement peuvent en profiter ?
Je ne sais pas s'ils peuvent en profiter, mais ils ont profité de cette affaire pour se remettre sur le devant de la scène dans un contexte où leur gouvernement est extrêmement fragilisé, puisque la majorité parlementaire et gouvernementale a perdu justement sa majorité à travers la défection des membres des ministres de l'Istiqlal. Et donc actuellement, on parle d'une reconstruction d'une majorité parlementaire. Et c'est dans ce contexte d'évacuation en douceur des membres du PJD, du gouvernement et donc peut-être du Premier ministère qu'a éclaté cette affaire. Cette crise politique traîne depuis plusieurs mois et il est évident que plus on s'approche de la rentrée, plus il va falloir clarifier cette situation. Et donc, face à la menace qui pèse sur le PJD, renforcée bien sûr par l'éviction des islamistes en Égypte et maintenant par le débarquement, apparemment, c'est ce qui se passe en Tunisie aussi, du gouvernement Ennahda, forcément les islamistes marocains sont très sensibles à ce contexte international et à cette menace qui pèse sur leur tête.
Qu'est-ce que cette crise révèle sur les rapports de la société marocaine avec le pouvoir ?
C'est quand même qu'un certain nombre de barrières sont tombées, des barrières psychologiques, des barrières mentales. Alors depuis, on est dans une sorte de statu quo où le pouvoir petit à petit a regagné des positions. Mais évidemment, sur le fond, on peut voir que une décision aujourd'hui du Marzen, de l'autorité centrale, peut susciter de la contestation. Alors c'est pas une contestation de masse, hein, comme on le voit en Tunisie ou en Égypte. Il n'y a pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes a fortiori dans la rue. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de personnalités, de mouvements qui n'hésitent plus à dire non. Et le roi en a pris acte puisqu'il est revenu sur cette décision.
Mais est-ce que l'image du roi n'est pas entachée ?
Mais au moment où la crise politique l'a éclaté avec la menace au départ de démission des ministres de l'Istiqlal au mois de mai, le roi ensuite a eu une très longue absence. C'est plutôt à travers cet aspect-là que son image a un petit peu changé. C'est-à-dire que peut-être est fatigué, peut-être prend une certaine distance en laissant les partis politiques et les acteurs de la scène politique locale, y compris ses conseillers du palais, traiter donc des questions politiques. Donc là, évidemment, il est mobilisé, mais il est tenu de répondre. Enfin, on peut imaginer qu'il va répondre politiquement ainsi qu'il l'avait fait au moment du printemps arabe, à travers un certain nombre d'annonces ou à travers un discours ou à travers l'accélération peut-être d'un calendrier politique. Mais c'est évident qu'il va falloir trouver une réponse pour remettre en scène l'autorité du roi.